Et merci d'avoir choisi Europe 1.
Aujourd'hui, je veux reconnaître pleinement le rôle qui a été celui de justement toutes les aides à domicile durant la période du Covid.
Et pour cela, il y aura 160 millions d'euros débloqués, moitié par l'État, moitié par les départements, pour accorder une prime Covid aux aides à domicile. Confirmation de l'engagement par Emmanuel Macron ce matin en visite à Toulon.
Des personnels qui avaient été en première ligne durant l'épidémie du printemps dernier, une épidémie qui pourrait connaître une deuxième vague dès l'automne prochain. C'est la mise en garde du Conseil scientifique. Toutes les explications dans le journal.
Cerné par les affaires et parti en exil, l'ex-roi Juan Carlos d'Espagne serait actuellement en République dominicaine, selon certains médias espagnols.
C'est une honte pour le pays. Il devrait rester ici pour rendre l'argent qu'il a volé et répondre légalement de ses actes devant un tribunal.
À Madrid, le Premier ministre réagit pour défendre les institutions monarchiques. Nous retrouverons Nicolas Feldman, notre envoyé spécial. Dans ce journal également, le monde du patinage artistique à nouveau secoué par des affaires de violence ou de harcèlement sexuel. Une vingtaine d'entraîneurs seraient concernés.
Au fur et à mesure, le ministère des Sports nous a envoyé les noms de certains de ses entraîneurs pour qu'on puisse avertir les clubs du fait qu'ils soient suspendus pour protéger nos licenciés.
Nathalie Péchala, la nouvelle présidente de la Fédération de sport de glace, réagit ce soir sur Europe 1. Et puis à la fin de ce journal, un petit voyage dans l'espace, ce sera possible dès le premier trimestre de l'an prochain grâce à Virgin Galactic, la compagnie du milliardaire Charles Branson. Mais il vous en coûtera au bas mot 250 000 dollars, toutes les explications avec l'or d'Autriche. Et puis la Bourse de Paris clôture en légère hausse ce soir, plus 0,26% à 4888 points.
Sans oublier bien sûr la météo, soleil. Bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir à tous. Eh bien, on n'avait pas vu une carte aussi dégagée depuis bien longtemps, avec tout juste quelques nuages inoffensifs sur la pointe bretonne. Sinon, partout ailleurs, c'est grand beau avec des valeurs qui commencent à remonter entre 22 à Brest et 33 à Nîmes. Je vous en dis plus tout à l'heure.
Sans faute, on vous attend Valérie Darmon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
François Claus, Lionel Gougelot.
Mais pour commencer donc cette recommandation qui sonne comme un véritable signal d'alarme, le Conseil scientifique juge hautement probable, ce sont ces termes, la survenue d'une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 à la rentrée ou à l'automne prochain. On voit depuis quelques jours effectivement que certains indicateurs suscitent l'inquiétude dans les milieux médicaux, notamment pour ce qui concerne les admissions en réanimation. Bonsoir Victor Delande.
Bonsoir Lionel.
C'est ce qui justifie ce ton alarmiste du Conseil scientifique.
Oui, une hausse avait déjà été enregistrée jeudi dernier. Un patient de plus dans les services de réanimation. Cet indicateur n'avait pas arrêté de baisser depuis le 9 avril dernier. Cette fois, la courbe s'inverse et dans le mauvais sens. Le week-end dernier, 13 patients de plus ont été admis en réanimation. Si on jette un coup d'œil aux autres indicateurs de suivi de l'épidémie, les résultats ne sont pas excellents. Prenons le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'un malade contamine. Au moment du déconfinement, il était à 0,7. Aujourd'hui, il est de 1,38. Enfin, le nombre de nouveaux cas confirmés en France a connu une augmentation importante la semaine dernière. Plus 54%. La barre des 1000 nouveaux cas par jour a même été dépassée à plusieurs reprises. Pour éviter une deuxième vague épidémique, le Conseil scientifique demande aux autorités de mettre en place des plans de prévention axés notamment sur les grandes métropoles. Il pointe par ailleurs des lenteurs dans la stratégie de dépistage. Sur les tests, justement, le Conseil scientifique préconise 4 pistes. Prélever plus vite les patients qui ont des symptômes, mieux cibler les populations à risque, recourir à des dépistages massifs dans les grandes agglomérations et enfin pratiquer le dépistage aléatoire.
Merci Victor Delande. À Paris, Anne Hidalgo demande finalement la mise en place de l'obligation du masque dans certains espaces publics comme les marchés de plein air ou encore les quais de Seine. La maire de Paris vient d'entamer une concertation avec le préfet Didier Lallement pour déterminer quelles seront les zones précises qui seront concernées par cette obligation du port du masque. Obligation qui pourrait entrer en vigueur dans les prochaines 48 ou 72 heures selon l'adjointe chargée de la santé. Puis plus tôt dans l'après-midi, c'est Toulouse qui s'est ajoutée à la liste des villes qui mettent en place cette obligation. Et comme partout, 135 euros d'amende en cas de contravention, même type de mesure dans les villes du département de Haute-Savoie.
Après les soignants, les aidants, les personnels de l'aide à domicile auront droit eux-mêmes à leur prime Covid. Emmanuel Macron l'a confirmé ce matin lors d'une visite à Toulon auprès de ses salariés qui veillent sur les personnes âgées ou dépendantes.
Ils ont, dans la période que nous venons de vivre, dans cette période du Covid, joué un rôle essentiel. Mais d'apporter le repas à domicile, d'apporter les soins, et ces femmes et ces hommes ont été les oubliés de la prime Covid. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux reconnaître pleinement le rôle qui a été celui de justement toutes les aides à domicile durant la période du Covid. Le ministre a pu mobiliser avec l'ensemble de ses services des financements à hauteur de 80 millions d'euros et les départements se sont aussi pleinement mobilisés et mobiliseront 80 millions d'euros de leur côté. Et donc nous aurons avec ces 160 millions d'euros la possibilité d'apporter la prime Covid aux justement personnel. Les dossiers seront instruits pour qu'avant Noël, toutes ces primes Covid soient payées.
Emmanuel Macron, ce matin à Toulon avec Stéphane Frangier. Bonsoir Adrien Beck.
Bonsoir.
Il s'agit bien d'une confirmation pour ces personnels parce que le financement de cette prime est déjà envisagé dans certains départements.
Absolument, ça concerne une trentaine de départements. En fait, cette prime n'est pas une nouveauté. Elle a été annoncée par Édouard Philippe le 15 avril et bien vite, Matignon a choisi. Elle sera payée par les départements, ce qui a une logique car c'est bien cet échelon territorial qui a la tutelle du secteur social. Sauf que plusieurs présidents de départements ont vu ça comme une manière pour l'État de se décharger sur eux. Ils ont donc fait savoir qu'ils ne verseraient rien. Plusieurs raisons à cela. Des départements peu touchés par l'épidémie, d'autres qui n'ont pas forcément les moyens. Alors avec cet accord, arbitré la semaine dernière par Jean Castex, l'État donne donc 80 millions d'euros, ce qui va permettre aux départements en difficulté financière de verser une prime. Il y en aura donc possiblement davantage que les 30 dont on vient de parler. Alors en revanche, et ça c'est la décentralisation qui veut ça, les départements pourront choisir le montant, les conditions d'attribution de cette prime et ceux qui ne souhaitent pas la verser n'y seront pas contraints puisqu'il n'existe pas à ce stade de cadre national pour le versement de cette prime.
Merci Adrien Beck.
Et au-delà de l'aide aux soignants annoncée, aux aidants annoncés aujourd'hui, le débat sur le financement de la dépendance en France alors que le Parlement vient d'adopter le principe d'une cinquième branche pour la sécurité sociale. Mais comment financer cette branche? Nous serons avec l'économiste Frédéric Bizard dans 10 minutes.
Europe 1, 18h07, la suite du journal. Lionel Gougelot, François Clos.
Au lendemain de l'annonce de l'exil de l'ex-roi Juan Carlos, l'Espagne est toujours, Lionel, ce soir sous le choc.
Oui, on peut même parler d'une sorte d'état de sidération, François, parce que depuis le communiqué officiel, c'est silence radio du côté du Palais Royal. Alors, on attendait cet après-midi une réaction du gouvernement. Elle est venue à l'issue du Conseil des ministres, Nicolas Feldman. Et dans l'immédiat, pour le Premier ministre Pedro Sanchez, eh bien la priorité, c'est la défense des institutions monarchiques.
Ah oui, exactement. Défendre l'institution royale et placer les hommes face à la justice. Qu'on parle de simples sujets ou d'un ancien roi comme Juan Carlos, pour le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, la conférence de cet après-midi ressemblait en fait à un numéro d'équilibriste. Oui, la maison royale a bien fait d'accepter l'exil de Juan Carlos. Oui, l'ancien roi sera jugé s'il le faut, mais non, le gouvernement ne sait rien de son exil, ni même aujourd'hui où il se trouve. Et pourtant, dans les médias espagnols, l'itinéraire de Juan Carlos se précise peu à peu. Un départ le week-end dernier au Portugal avant de s'envoler vers les Caraïbes et la République dominicaine. L'ancien roi y dispose d'amitiés solides. Un scénario difficile à accepter ici dans les rues de Madrid, comme pour Patricia et cette impression que son ancien roi cherche à se soustraire à la justice.
C'est une honte pour le pays. Moi, je suis républicaine et le fait que Juan Carlos ait quitté l'Espagne, ce n'est pas un bon signal. Pour moi, il devrait rester ici pour rendre l'argent qu'il a volé et répondre légalement de ses actes devant un tribunal.
Voilà, répondre de ses actes, c'est justement ce que rappelle son avocat pour qui Juan Carlos, où qu'il soit, reste à la disposition de la justice espagnole.
Merci Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 en Espagne. Une violente explosion, très violente explosion cet après-midi à Beyrouth au Liban. Une déflagration dans le quartier du port qui a été entendue dans plusieurs secteurs de la ville, plusieurs kilomètres à la ronde. De nombreux dégâts déjà constatés notamment sur les immeubles, mais on ignore pour l'instant s'il y a des victimes. On y reviendra bien évidemment tout au long de cette soirée.
Dans l'actualité ce soir, le rapport très sévère de l'inspection générale qui avait été saisie par le ministère des Sports. Une vingtaine d'entraîneurs de patinage artistique mis en cause dans des affaires de violence.
Alors précisément, l'enquête avait été diligentée à la suite, vous le savez, des révélations de l'ancienne patineuse Sarah Abitbol, accusant son ex-entraîneur de l'avoir violée et agressée sexuellement au début des années 90. Des révélations qui avaient d'ailleurs entraîné la démission du président de la fédération Didier Gayaguet. Et aujourd'hui, Cyril de la Morinerie, on se rend compte que le cas Abitbol, finalement, n'était pas un cas isolé.
Oui, car plus d'une vingtaine même d'entraîneurs seraient mis en cause. 12 pour des faits de harcèlement ou d'agression sexuelle, dont 3 ont été condamnés par le passé à des peines d'emprisonnement. 7 dossiers concernent des violences physiques et verbales. Enfin, Deux autres cas sont des entraîneurs décédés. Au terme de cette mission d'enquête, l'inspection générale a transmis son rapport au procureur de la République. Ces dossiers ont d'ores et déjà donné lieu au placement en détention provisoire d'un entraîneur et à 5 mesures administratives d'interdiction d'exercer. La présidente de la Fédération de sport de glace, qui n'était pas destinataire de ce rapport, puisqu'il a été remis à son prédécesseur Didier Gayaguet, réagit ce soir sur Europe 1. Nathalie Péchala explique qu'elle n'est pas étonnée par les conclusions de cette enquête.
Je ne suis pas surprise, puisque ce sont des sujets qui ont été largement diffusés dans les médias et évoqués depuis février. En revanche, on n'a pas attendu ces conclusions pour pouvoir mettre en place des actions. Au fur et à mesure, le ministère des Sports nous a envoyé justement les noms de certains de ces entraîneurs pour qu'on puisse avertir les clubs du fait qu'ils soient suspendus pour protéger nos licenciés, ce qui est quand même la priorité de la fédération.
La fédération a aussi mis en place un code de bonne conduite pour les encadrants en charge de mineurs lors de déplacements. Un comité d'éthique sera créé très prochainement. Mais attention, un autre rapport sur une enquête administrative et financière sortira en automne. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaires, prévient sur Europe 1 Nathalie Péchala.
Merci Cyril de la Morinerie, du service des sports d'Europe 1. L'arrestation à la mi-journée du chauffard qui avait renversé et traîné sur plusieurs mètres un père de famille de 54 ans près de Lens dans le Pas-de-Calais la nuit dernière. Au volant de son poids lourd, un poids lourd de 40 tonnes, le suspect avait pris la fuite. Il assure ne pas s'être rendu compte de l'accident devant les enquêteurs. Il est toujours ce soir en garde à vue.
Un nouvel épisode dans la guerre que se livrent la Commission européenne et les GAFA. Cette fois-ci, c'est Google qui va faire l'objet d'une enquête approfondie.
L'Europe ne semble pas apprécier, en effet, le projet du géant américain de racheter la société Fitbit. Alors cette société, elle est spécialisée dans les objets connectés pour activité physique. Le problème, Clément Le Saffre, c'est la crainte d'un abus de position dominante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ?
Eh bien, il y a une subtilité à première vue. Il n'y a pas de rapport, vous l'avez dit, entre Google, numéro 1 des moteurs de recherche, et Fitbit, qui donne dans les objets connectés pour les sportifs, un domaine dans lequel le géant américain n'est pas présent aujourd'hui. En réalité, la Commission s'inquiète de l'appropriation par Google des données des utilisateurs de Fitbit. Les bracelets, les montres, les capteurs que vous portez quand vous faites du sport, eh bien, ils collectent tout un tas d'informations sur vous, votre poids, votre rythme cardiaque, vos déplacements. Et ces données, c'est un peu l'eldorado numérique derrière. Elles sont utilisées par les entreprises pour vous envoyer de la publicité ciblée. Et c'est là que la Commission tique. Google est déjà un mastodonte des données grâce à son moteur de recherche et ses applications comme Google Maps. Rendez-vous compte, les publicités issues de la revente de nos données lui ont rapporté 115 milliards d'euros rien que l'an dernier. L'enquête de la Commission vise donc à s'assurer que le rachat de Fitbit ne va pas aggraver cette situation et fausser encore un peu plus la concurrence. La décision est attendue d'ici au 9 décembre.
Merci Clément Le Saffre.
Un tourisme spatial, beaucoup en rêve, la compagnie Virgin Galactic va bientôt en faire une réalité.
En tout cas pour ceux qui en ont les moyens, la compagnie de Richard Branson assure qu'elle sera en mesure d'effectuer un premier vol touristique dans l'espace au premier trimestre de l'année prochaine. 600 personnes ont déjà réservé leur billet donc pour l'espace pour la modique somme de 250 000 dollars, c'est bien ça hein, l'or d'Autriche.
Oui.
Alors à ce prix-là, on a le droit à quoi ?
Alors ce n'est pas un voyage en orbite autour de la Terre, mais vous pourrez flotter pendant quelques minutes à la frontière de l'espace. Les touristes seront dans un vaisseau qui montera à 80 km d'altitude et c'est à 80-100 km qu'on établit la frontière de l'espace. Non. Les moteurs seront coupés pendant quelques minutes, ce qui créera une sensation d'apesanteur et les passagers pourront détacher leur ceinture pour flotter, promet le milliardaire Richard Branson. Il y a 6 places pour les passagers, 2 pour les pilotes et à 80 km d'altitude, évidemment, les touristes auront une vue spectaculaire sur la Terre. Chaque siège est près d'un grand hublot et une caméra est fixé sur chaque hublot pour que le passager puisse être pris en photo avec la Terre en arrière-plan. Et puis l'appareil ensuite commencera sa redescente vers la Terre. Alors c'est un projet que Richard Branson a depuis plusieurs années déjà. Il n'est pas le seul. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, est lui aussi engagé dans cette course au tourisme spatial. Richard Branson a plusieurs fois repoussé cette date du premier voyage touristique dans l'espace. Il y a eu un accident même avec ce vaisseau en 2014 qui avait causé la mort du copilote. Mais cette fois, il affirme qu'à l'automne, deux tests grandeur nature auront lieu avec deux vols habités, avant donc que le milliardaire lui-même ne s'envole au début de l'année 2021.
Ouais, je pense qu'il y aura aussi pas mal de publicité qui sera faite autour de ça. Merci Laure d'Autriche.
Et merci à vous Lionel Gougelot. On vous retrouve à 18h30 pour les grands titres de l'actualité.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Alors Valérie Darmon, vous nous le disiez dans les titres, un beau temps, vraie journée d'été, mais attention, attention, les températures montent dans les prochaines heures.
Et oui, et quoi de plus beau que le ciel et l'espace, surtout quand il ressemble à celui de demain et des jours à venir, François. À part sur la pointe Bretagne, où le ciel va rester nuageux, matin comme après-midi, partout ailleurs, le soleil qui va s'imposer très largement, pas question de nuages, même des cumulus de beau temps, pas question d'orage, le vent qui se calme sur le pourtour méditerranéen et dans la vallée du Rhône, les minimales qui sont encore fraîches et qui s'échelonneront de 9 à 15 degrés, 15 à 20 autour de la Grande Bleue, et les maximales qui sont en haut sensible comme prévu, sans surprise, 24 à 31 sur la moitié nord, 28 à 33 sur la moitié sud, la pointe bretonne qui reste plus fraîche avec des maximales aux alentours de 23 degrés.
Merci Valérie, on vous retrouve dans un gros quart d'heure pour la météo des plages.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, la suite avec vous François Claus et dans un instant votre invité.
Notre invité Frédéric Bizard, l'un des grands spécialistes de l'économie de la santé en France. Comment on va pouvoir financer l'aide aux personnes âgées, de plus en plus nombreuses, de plus en plus dépendantes. À tout de suite.
18h17 sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit avec vous, François Claus, et votre invité. Vous recevez ce mardi Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé.
Bonsoir Frédéric Bizard.
Bonsoir.
Emmanuel Macron nous a fait une visite surprise aujourd'hui, enfin pas loin de son fort de Brégançon, à Toulon, à 40 km à l'est. Il est allé auprès d'une personne veuve, seule, octogénaire dans son domicile. Il a annoncé que l'État viendrait en aide aux départements qui ne parvenaient pas à verser les primes promises par le précédent gouvernement aux aidants, les aides à domicile. Il était temps de réparer cet oubli, on peut dire déjà.
Oui, il me semble en effet important, comme on l'a fait pour le personnel hospitalier. On a oublié un petit peu les médecins de ville, le personnel médical de ville, et on avait oublié aussi le personnel médico-social. Donc il semble extrêmement important que tout ce personnel soignant qui a été en première ligne, hein, comme ça a été dit par le président, évidemment puisse avoir cette prime Covid, même si cette prime ne remplacera pas, je dirais, la faible rémunération qu'on a pour ce personnel-là. La remise un petit peu à niveau concernant le personnel hospitalier, mais on a oublié tous les autres.
Et c'est un personnel extrêmement fragile, très féminin, hein, 97%, qui représente 320 000 personnes en France qui viennent en aide à domicile aux 800 000 personnes âgées en perte d'autonomie et aux 300 000 handicapés. Et c'est un secteur dans lequel on manque de bras, hein, qui plus est, Frédéric
oui.
Bizard.
On manque de bras parce qu'en fait, on manque d'attractivité hein, pour ce personnel-là. On a un environnement qui s'est sensiblement dégradé aussi bien dans les EHPAD qu'à l'hôpital. Et je pense que c'est au moins aussi important de travailler sur cet environnement de travail que d'augmenter les salaires. Et je crains que, notamment avec le Ségur de la Santé, hein, qui a quand même vu la hausse des ressources permanente hein, pour les hôpitaux de près de 7 milliards, 6 milliards et demi exactement, pour les hôpitaux publics. Mais en fait, le fond du problème n'est pas simplement un problème salarial, c'est que c'est vraiment un problème d'attractivité des postes. On a en fait une bureaucratie qui a envahi l'ensemble du système de santé et qui a dépossédé de tout pouvoir d'organisation un personnel hospitalier ou un personnel des EHPAD qui doit être partie prenante de l'organisation des services. Si vous voulez, on a apporté à coups de milliards la possibilité de continuer à ce personnel à travailler dans un environnement dégradé. Mais je crains que cela ne change pas le problème d'attractivité et donc dans les prochaines années, le manque de personnel parce que on ne manque pas de postes. Mais en fait, on a un niveau de vacation des postes qui est très élevé. Pour prendre un exemple, les praticiens hospitaliers, vous avez un taux de vacance des postes de l'ordre de 30%. Donc c'est bien de dire qu'on va rajouter des postes, mais il faut surtout
remplir ceux déjà qui ne sont pas les postes. On les estime effectivement à un très grand nombre, les postes qui ne sont pas aujourd'hui attribués. On voit bien, au-delà de cette prime du moment qui était attendue, que se dessine le schéma, d'autant que le Parlement l'a adopté la semaine dernière, la fameuse cinquième branche de la Sécurité sociale qui va permettre, au moins dans le cadre de financer ce risque de la dépendance et de la perte d'autonomie qui est de plus en plus prégnant dans notre monde. Mes questions, une fois qu'on a cette cinquième branche, comment on la finance, Frédéric Bizard ?
Mais oui, votre question est tout à fait pertinente, puisque ce n'est pas un effet d'affichage de dire qu'on va avoir une cinquième branche. Il faut savoir que l'assurance maladie, aujourd'hui, finance à hauteur de 20 milliards la dépendance, en particulier le financement des frais de santé et une partie des frais liés à la dépendance. Donc on a déjà ce financement par l'assurance maladie, qu'on la fasse passer par une cinquième branche, ça ne va pas changer le manque de financement, mais aussi... La désorganisation de notre système sur un plan institutionnel. Il faut savoir qu'on a entre l'État, l'assurance maladie, donc aujourd'hui le financeur et les départements, des rôles qui sont extrêmement confus. Donc on a un système qui est très peu performant parce qu'on a une vraie crise de la gouvernance. Alors concernant le financement, qui n'est pas l'alpha et l'oméga, encore une fois, d'une politique de gestion de la dépendance, mais ce financement, il faut trouver à peu près 5 à 6 milliards d'ici 2024 et à peu près 10 milliards d'ici à 2030, chaque année de façon récurrente.
Bon. Oui, parce qu'on estime aujourd'hui qu'il y a 1 200 000 personnes âgées dépendantes. Il y en aura 2 200 000, il faut être clair, en 2050. Et ça, c'est statistique.
Oui, mais c'est démographique. C'est-à-dire qu'avec le vieillissement de la population, vous avez aujourd'hui à peu près 9% des Français qui ont plus de 75 ans et on sera à 15% en 2040. Donc vous voyez que mécaniquement... Mais vous avez deux façons de gérer ce phénomène-là.
De trouver ces milliards. Première façon... Vous avez bien dit 6 milliards d'ici 2024 et 10 d'ici 2030.
Voilà. Donc, si vous voulez, de dépenses supplémentaires. Mais pour contrôler ces dépenses, vous avez deux façons de faire. La première, c'est d'avoir une politique de prévention active extrêmement développée, ce que l'on n'a pas du tout. Ça vous a pas échappé que quand on a rajouté 7,5 milliards à l'hôpital, on a mis absolument 0 € dans la prévention. C'est-à-dire qu'on est toujours sur essayer de faire vivre l'aval du système, donc l'hôpital ou l'EHPAD, mais de ne pas se préoccuper d'essayer de contrôler l'amont du système, c'est-à-dire d'essayer que les gens aient une espérance de vie en bonne santé plus longue et d'essayer de reporter le plus tard possible l'entrée dans la dépendance. Et aujourd'hui, on a des outils, on sait ce qu'il faut faire en matière d'action sur les déterminants de santé. Donc il faut investir dans le capital humain pour que ce capital humain vieillisse en bonne santé. Et malheureusement, on voit qu'on n'est pas du tout dans cette politique-là. On essaie de, sauf qui peut, d'essayer de rajouter des milliards dans les EHPAD ou dans l'hôpital. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est en effet de trouver un financement pérenne de façon à ce qu'on ait un environnement de travail, une qualité de vie pour les patients, que ce soit à l'hôpital ou dans les EHPAD, qui soit décente, qui soit au niveau de ce qu'on peut espérer en France. Et pour ça, il faut pérenniser un financement avec des charges sociales qui soient adaptées à ça. C'est un point de charge sociale supplémentaire. Et je pense que le gouvernement a fait une erreur en essayant, avec la dette Covid, en la réinjectant dans la CADES, c'est-à-dire cette caisse d'amortissement, à hauteur de 131 milliards. On a repris 131 milliards de dettes avec le Covid à financer par des charges sociales. Or, cette cadence devait s'éteindre. S'éteindre en 2024.
Ce qui empêchera justement les investissements. Est-ce qu'on pourrait envisager une deuxième journée de solidarité, qu'on travaille sans être payé finalement, ou qu'on travaille pour les personnes dépendantes, comme c'est le cas d'ailleurs déjà en Allemagne, et comme on l'avait créé avec la fameuse journée de la Pentecôte en 2003. Et puis finalement, il y a le choix de n'importe quel jour pour les entreprises. Une deuxième journée de solidarité, ça rapporte 3 milliards d'euros à peu près, une journée de solidarité.
Oui, de 1,5 milliards à 3 milliards. Mais en fait, vous savez que cette journée de solidarité, c'est devenu une taxe. Donc en fait, je pense qu'il faut faire ce qu'ont fait les Allemands il y a déjà une quinzaine d'années. C'est encore une fois considérer, puisque on a mis cette cinquième branche de la sécurité sociale, c'est d'assurer un financement pérenne. On connaît parfaitement les besoins sur le long terme, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est lié à l'évolution démographique. Donc nous sommes en capacité, et ces besoins ne sont pas si importants que ça. On est à peu près à 1,4 point de PIB de dépenses au global pour prendre en charge l'autonomie. On sera dans une vingtaine d'années à 1,6 à 1,7. Je rappelle que les dépenses de retraite, c'est 14 points de PIB. Les dépenses de santé, c'est 11 points de PIB. Donc vous voyez qu'en matière d'autonomie, le principal problème n'est pas le financement. On est toujours en train un petit peu de parler de ce financement. Le problème, il est de réorganiser toute la filière pour que, lorsque vous avez une personne âgée, elle ait elle ait le choix, elle ne soit pas condamnée à finir dans une EHPAD parce qu'elle n'a pas le choix. Il faut avoir le choix de pouvoir rester à domicile, le choix de pouvoir aller dans des structures intermédiaires, et il faut considérer que le grand âge est aussi une opportunité d'investissement à forte rentabilité pour la société. D'abord, c'est créateur d'emplois, et ça peut être créateur avec les nouvelles technologies d'investissement extrêmement rentables.
Merci beaucoup Frédéric Bizard de nous avoir accompagnés sur Europe 1 ce soir avec vos réflexions pertinentes sur ce paradoxe où on manque aujourd'hui dramatiquement de bras dans le domaine de l'aide aux personnes âgées qui, elles, sont de plus en plus nombreuses. Mais on a écouté avec beaucoup d'intérêt les solutions que vous préconisiez. Je renvoie à votre dernier livre. Et alors, la réforme de la santé, c'est pour quand? Avec vous, c'était bien, c'était sur Europe 1 ce soir et c'est aux éditions Fauve.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Le rappel des titres et le débat des grandes voix, François.
Oui, on va reparler, mais sous un autre angle, de la visite d'Emmanuel Macron à Toulon aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette frénésie de politique de terrain? Les grandes voix sont là et nous vous attendons au 39-21.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir. Et c'est avec vous, François Clausin.
Et surtout à 19h30 avec Lionel Gougelot pour le rappel des grands titres de l'actualité.
Plusieurs dizaines de blessés, c'est le premier bilan sans doute encore provisoire de deux énormes explosions survenues dans la zone du port de Beyrouth cet après-midi. On ne connaît pas encore l'origine de ces déflagrations, mais les premiers dégâts constatés sur place sont considérables. On y revient dans le détail dans le journal de 19h. L'avertissement a de quoi inquiéter. Le conseil scientifique estime hautement probable la survenue d'une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus à la rentrée ou à l'automne prochain. La situation est fragile et risque de basculer à tout moment, écrit l'instance qui conseille le gouvernement dans sa politique sanitaire. En déplacement à Toulon ce matin, Emmanuel Macron appelle à son tour à la vigilance et au respect des gestes barrières. Une enveloppe de 80 millions d'euros pour les aides à domicile. Emmanuel Macron annonce que les personnels qui interviennent auprès des personnes âgées ou dépendantes auront elles aussi leur prime Covid. Une enveloppe qui devrait être doublée par les départements pour un montant total de 160 millions d'euros. Cela devrait correspondre, en théorie, à 1000 euros par agent. À Paris, Anne Hidalgo demande la mise en place de l'obligation du masque dans certains espaces publics. La maire de Paris vient d'entamer une concertation avec le préfet Didier Lallement pour déterminer quelles seront les zones précises qui seront concernées par cette obligation du port du masque qui pourrait entrer en vigueur dans les prochaines 48 ou 72 heures. Le monde du patinage artistique avait été secoué en début d'année par les révélations de Sarah Abitbol accusant son entraîneur de l'avoir violée et agressée sexuellement entre 90 et 92. L'enquête diligentée par l'inspection générale saisie par le ministère des Sports révèle que plus d'une vingtaine d'entraîneurs sont mis en cause dans des faits d'agression ou de harcèlement sexuel ou encore de violence physique ou verbale.
Merci Lionel Gougelot. On vous retrouve à 19h, peut-être des informations complémentaires sur la double explosion très spectaculaire de Beyrouth. Allez, c'est plus calme qu'à Beyrouth. Les plages françaises et j'ai envie de dire pas de jaloux Valérie Darmon, du nord au sud, hein, beau partout.
Là, du nord au sud, c'est grand beau temps, avec juste des températures qui varient un tout petit peu. Mais pour la première fois, la Méditerranée perd quelques degrés pour la baignade, à cause du vent. Mistral et Tramontane ont beaucoup soufflé ces derniers temps. Eh bien, au large de l'Hérault, l'eau est plutôt aux alentours de 18 degrés. Dans le Roussillon, 19. Dans les Alpes-Maritimes, 24. Elle a perdu en moyenne 2 à 3 degrés, quand même, la Méditerranée. Et sur vos plages pour demain, entre 29 et 30 degrés. Et elle est calme. Très beau temps et belle remontée des températures le long de la Manche et en mer du Nord avec des valeurs entre 22 et 30 degrés, 22 pour Brest, 30 pour Saint-Malo, en passant par 26 pour Dunkerque, avec une eau extrêmement calme entre 17 et 20 degrés. Toujours même chose, même situation sur la façade atlantique avec des valeurs entre 22 à La Baule et 26 à Biarritz, 26 également dans les Landes, 27 à Lacanau et un océan extrêmement calme entre 18 et 23 degrés.
Merci Valérie, 22 degrés à Brest, c'est quasiment la canicule là-bas en Finistère Nord. je dis ça parce que j'adore la Bretagne.
Ah, j'adore aussi. 18h32 sur Europe 1, place au débat des grandes voix dans votre grand journal du soir. À vos côtés aujourd'hui François, Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match, et Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Vous pouvez aussi réagir au 39-21.
On vous attend effectivement au 39-21. Bonsoir Virginie Leguet.
Bonsoir.
Bonsoir Jannick Halimi.
Bonsoir.
L'actualité de ce mardi 4 août, c'était ça.
Aujourd'hui, je veux officialiser la décision qui a été prise de reconnaître pleinement le rôle qui a été celui d'aide à domicile durant la période du Covid. Le ministre a pu mobiliser avec l'ensemble de ses services des financements à hauteur de 80 millions d'euros pour que nous puissions redéployer justement cet argent. Et les départements se sont aussi pleinement mobilisés, ils sont des payeurs importants, et mobiliseront 80 millions d'euros de leur côté. Et donc nous aurons avec ces 160 millions d'euros la possibilité d'apporter la prime Covid au justement personnel de soins, d'aide, d'accompagnement à domicile.
Voilà, c'était Emmanuel Macron, il était 13h30 à Toulon cet après-midi. Il y a 10 jours, il est arrivé également avec un chèque en poche devant les policiers de la BAC Nord à Paris, qui ont eu la surprise de voir le président de la République arriver, leur annoncer une augmentation substantielle des heures de nuit qui étaient effectivement sous-payées. Virginie Le Guay, c'est ça la politique des 600 jours à venir de la deuxième partie du quinquennat, une visite de terrain pour montrer que je suis proche des gens et puis un chèque au passage, une aide.
Oui, alors il y a deux piliers qui se sont bien dessinés aujourd'hui, le social et la sécurité. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé surtout, c'est le ton d'Emmanuel Macron, que j'ai trouvé plutôt différent des fois précédentes, beaucoup plus sobre, beaucoup plus en retrait, avec des mots qui revenaient, qui rappelaient un peu la campagne de 2017, notamment le mot bienveillance. Visiblement, Emmanuel Macron est dans une recherche de quelque chose de plus modeste, moins de mise en avant, moins de moi-je, beaucoup plus de collectif. Et les mots qu'il a eus pour ces oubliés de la prime Covid, il a parlé de l'isolement, il a parlé de l'abandon. Franchement, c'était plutôt réussi. Et on pourrait dire que depuis le remaniement, depuis le succès du budget européen, il réussit pour l'instant une séquence plutôt sans faute.
Yannick Halimi, j'ai fait le compte des déplacements de Jean Castex. On en parlait hier d'ailleurs dans les grandes voix à propos de son premier mois à Matignon. 21 déplacements en 32 jours d'exercice du pouvoir. Gérald Darmanin qui vole de commissariat en commissariat et qui crée des postes. 60 ici, 10 cet après-midi de nouveau à Toulon. Vous pensez que les Français vont adhérer ou qu'ils risquent d'y voir finalement une politique de communication, que trop d'effets d'annonces vont tuer les annonces?
Alors, tout dépend quelles sont ces annonces et si elles sont suivies de données sonnantes et trébuchantes, si elles sont suivies de projets de loi, si elles sont suivies de mesures concrètes. Ça, c'est une première chose. Après, comment les Français vont le ressentir, vont l'accepter, est-ce qu'ils vont être convaincus? Bah, ça, vous avez raison de poser la question, mais le juge de paix, ce sera les élections qui vont se multiplier d'ici 2022. Hein. Les sénatoriales, bon, qui sont quand même très indirectes par rapport à la population, mais aussi les départementales, les régionales et bien sûr les présidentielles. Donc une chose est sûre, en revanche, c'est que la campagne pour la présidentielle, en tout cas vue par Emmanuel Macron, est bel et bien partie. Il faut bien voir tout de même que les compteurs là ont été remis à zéro après les municipales. Comme le disait Virginie, il y a eu un remaniement ministériel
d'abord
important.
D'abord une lourde défaite dans les urnes.
Non mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu ce remaniement et le départ forcé d'Édouard Philippe, juste, légitime ou pas, ça je n'en sais rien. En tout cas, il fallait symboliquement, enfin si j'ai mes raisons, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, j'ai mes opinions. Une chose est sûre, c'est que pour Emmanuel Macron, il fallait symboliquement incarner quelque chose de nouveau. Après, vous avez tout à fait raison, tout de même, la gifle prise par La République En Marche et donc Emmanuel Macron au municipal. Donc là, vous avez raison, encore une fois, il va s'adresser à tous les Français sur tous les registres, la sécurité, donc le régalien, la sécurité, bien évidemment l'économie, le social, la protection, et puis tout ce qui est santé et conséquence en tout cas de la crise sanitaire.
Voire même gestion au quotidien, puisqu'on ne sait pas exactement où on va.
Absolument, ouais. Absolument. Tout ça dans un chemin de 500, un peu moins de 500 ou 600 jours avant la présidentielle, dans une sorte de reconquête d'un électorat qu'il a quand même passablement perdu depuis le deuxième tour et depuis la présidentielle. Et depuis même les européennes.
Alors on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Là, nous avons des appels au 39-21. On va les prendre dans un instant, là, leur ressenti par rapport à cette politique de terrain. Mais Virginie Le Guay, vous évoquiez le choix délibéré du social et de la sécurité qui semblent être les deux mamelles du futur pouvoir. Il y a un vrai calcul politique dans ce choix. Sécurité, on va chercher du côté du Rassemblement national, social, on va chercher un petit peu à gauche, que Emmanuel Macron remet cette logique politique en route.
Emmanuel Macron, comme l'a dit Yannick, est en campagne. Il sait exactement où sont ses électeurs. Il a bien compris aujourd'hui que les électeurs de gauche étaient perdus et que sa base électorale, qui est une base de centre-droit, pourrait même s'élargir un peu s'il réussit à grignoter ceux qui sont encore accrochés à LR.
Si cette réforme qu'il lance d'une certaine manière aussi la cinquième branche de la sécurité sociale, la dépendance, son financement, ça pourrait être quand même un marqueur social fort de son quinquennat.
Oui, un marqueur social, mais ça pourrait surtout être, un marqueur humain. Ça va toucher tout le monde. La crise qui vient de se dérouler depuis des semaines a montré à quel point il y avait des difficultés de ce côté-là. Donc, ça touchera toutes les familles. Je ne suis pas sûre que le calcul là soit plus à gauche qu'à droite. Ça va toucher quelque chose. Je rappelle que ça a été plusieurs fois repoussé, que l'Assemblée jusqu'à présent y accordait une importance relative. Là, il le met en avant. Il le met même quasiment au premier plan parce que c'est sa première intervention officielle depuis son départ en vacances.
Il met Brigitte Bourguignon également dans un profil très particulier et dont tout le monde salue le professionnalisme et le savoir-faire dans ce domaine comme ministre délégué aux solidarités.
Oui, et moi je remarque que le remaniement du gouvernement en fait a été un remaniement qu'il a fait quasiment du sol au plafond parce qu'après il a remanié le corps préfectoral, il a remanié son équipe à l'Élysée et il a fini par se remanier lui-même et je trouve que depuis quelques semaines, ce remaniement se voit enfin après avoir promis plein de fois de changer. Là, il est vraiment en train de changer, peut-être sous la contrainte parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose dans son image qui ne va pas chez les Français et qu'il pourrait...
Il s'était rendu compte déjà avec les Gilets jaunes, ouais, malgré son tour de France.
Mais même pendant la crise sanitaire, toutes ces interventions étaient souvent à côté de la plaque, tombaient mal et étaient d'ailleurs souvent critiquées par rapport à celles beaucoup plus sobres d'Édouard Philippe. Là, il a franchement adopté un registre différent. Est-ce que ça va convaincre les Français? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que c'est surtout pas les résultats qu'il va obtenir dans le cadre de la crise économique qui vont changer l'idée que les Français ont de lui ou qui vont définitivement faire qu'il ait une base solide, je ne sais pas. En tout cas, là, c'est son image qui a été durablement modifiée. Mais on sait bien que chasser le naturel, il revient au galop. Combien de temps il va pouvoir tenir comme ça?
À suivre, donc, avant de redonner la parole à Yannick Halimi, ça ne va pas être un sondage, qu'en pensent les Français, mais au moins au standard européen, on va essayer. Rémi, par exemple, qui nous appelle du beau département des Hautes-Alpes. Bonsoir Rémi.
Bonsoir François.
Votre sentiment à vous sur cette politique de terrain tous azimuts là, qui marque et qui occupe le terrain de cet été 2020?
C'est une opération de pré-campagne électorale, clairement, qui est malheureusement pour les territoires assez peu suivie des faits en général. Nous, dans les Hautes-Alpes, on a vu défiler beaucoup de ministres et même le premier d'entre eux. Le problème, c'est que, par exemple, lorsque la ministre des Transports de l'époque, Elisabeth Borne, était venue dans les Hautes-Alpes, elle était non pas venue en train de nuit, alors qu'on a un sujet sur le train de nuit.
Oui, le maintien de Paris-Briançon, l'une des deux seules lignes qui existent encore en France.
Tout à fait, oui. Donc, elle aurait pu en profiter pour constater la réalité de cette ligne et les difficultés qu'elle traverse. Non, elle était venue en avion, puis elle connaissait assez mal le terrain parce qu'elle se rendait à Saint-Léger-les-Mélèzes.
Je vous interromps, Rémi, je précise que vous êtes maire d'une petite commune, je vois sur votre fiche des Hautes-Alpes.
Tout à fait.
Et donc, vous êtes particulièrement pertinent pour juger d'un déplacement ministériel sur votre terre.
Si je puis me permettre, quelle étiquette?
Alors, sans étiquette, je suis membre d'aucun parti.
Voilà,
comme beaucoup de maires,
des 36 000 maires de notre pays. Allez-y Rémi, continuez parce que c'est intéressant justement.
Oui, voilà, donc elle avait une méconnaissance du terrain, notamment elle pensait qu'on pouvait rejoindre la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes, qui est dans la très belle région du Champsort, dans les Hautes-Alpes, en une heure et demie pour aller à l'aéroport d'Aix-Marseille, ce qui est absolument pas possible, ou alors en faisant de très gros excès de vitesse. Suite à sa venue, on n'a pas eu d'amélioration ni des routes départementales ou nationales surtout. On n'a pas eu la prolongation de l'autoroute qu'on a depuis longtemps, et surtout on n'a pas eu d'amélioration du train de nuit.
Oui, le fameux Sisteron Gap. Hein, c'est ça.
Voilà.
J'adore cette région.
Brillant,
je dis aux gens, allez dans le Queyras d'ailleurs, si vous allez dans les Hautes-Alpes, région absolument magnifique aussi. Intéressant, Rémi, votre point de vue qui montre quand même, Yannick Halimi, les limites de l'exercice.
Je vous en prie, c'est pour ça. Les limites, après, les limites, on peut les repousser, c'est le propre du politique et de la volonté politique face à des contraintes et à la force des choses. Mais c'est vrai que surtout, c'est le cas de pratiquement tous les gouvernements depuis des années, cette déconnexion entre le sommet et la base. Mais c'est vrai, entre le Paris et la province, n'est-ce pas,
c'est mais vrai. Là, ça allait plus loin. Oui, on était même dans un registre de défiance.
Je suis d'accord avec vous. Effectivement, cette critique s'est accentuée depuis qu'Emmanuel Macron est président, puisque dès qu'il est arrivé, dès juin ou juillet, il s'est adressé effectivement aux collectivités locales dans une sorte de grand symposium qui s'était passé de mémoire au Sénat, et ça n'a rien donné du tout. Au contraire, il les a pris dans le sens, à l'inverse du sens du poil. Alors que pourtant financièrement, contrairement aux dernières années de François Hollande, il avait au contraire, on ne va pas s'engager sur ce débat qui est un peu technique, mais il avait quand même montré sa volonté de laisser du lest à ces fameuses dotations globales que l'État octroie aux collectivités locales. On ne va pas s'engager là-dessus, mais c'est vrai.
C'est le nerf de la guerre quand même aussi, à un moment donné.
C'est le nerf de la guerre. C'est vrai qu'en plus, au-delà de cette défiance dont vous parlez à l'égard de Paris, à l'égard de l'exécutif incarné par Emmanuel Macron, il y a eu aussi énormément de promesses qui ont été faites de l'exécutif par rapport aux collectivités locales, notamment depuis la crise des Gilets jaunes et ce fameux grand débat. Parce que ce fameux grand débat qui a été effectivement une opération plutôt réussie, politiquement parlant, de la part d'Emmanuel Macron, qui remonte maintenant à un peu plus d'un an, à part la grande convention sur l'écologie qui semble quand même donner quelques résultats, en tout cas qui ne s'est pas évanouie au magasin des accessoires de l'histoire, il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait alors qu'il y avait eu beaucoup de promesses faites justement sur le registre des collectivités locales, des décentralisations.
Ça nous renvoie à la fameuse phrase de Jean Castex, l'intendance ne suit plus messieurs, alors que le pouvoir central avait tendance à dire l'intendance suivra. Et on est dans ce constat-là et que le défi donc serait celui que l'intendance se mette à suivre.
Que se mette à suivre et qu'on abandonne notamment certains ministres d'Édouard Philippe et maintenant de Jean Castex des réflexes, des histoires un peu trop technocratiques et qu'on revienne un petit peu sur le terrain et une connaissance beaucoup plus concrète de ce qui se passe. C'est le cas effectivement de tous les exemples que vient de donner le maire que vous venez d'interviewer. Ça va être court en l'espace de 2 ans, ça va être très très court, mais c'est vrai en tout cas que de nouveaux jalons peuvent être jetés dans ce domaine-là et qu'après tout, il peut avoir une opération de reconquête, même minimale, mais de reconquête de certains élus et d'une partie de l'électorat qui a abandonné Emmanuel Macron depuis au moins encore une fois un an, depuis les européennes, qui a été son climax.
Qu'il est dur de faire de la politique et de changer un pays en 5 ans, ça c'est une autre question, mais qu'il faudra soulever un jour, et d'ailleurs les deux précédents titulaires du quinquennat n'ont pas été réélus également et se sont heurtés à cette difficulté aussi de l'effet de la politique.
Le dernier auquel vous faites allusion ne s'est même pas représenté.
Ne s'est même pas représenté. Alors nous avons Yves qui nous appelle également au 39-21, on voudrait bien avoir votre sentiment. Vous êtes, vous, dans le département de l'Aube, hein, à Troyes. Bonsoir, Yves.
Exactement. Merci de prendre mon appel et bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je voudrais aborder ce débat sous un angle un petit peu différent, parce que je trouve qu'il y a un étrange paradoxe. D'une part, on reproche aux politiques de trop sillonner les routes et les marchés, alors qu'en fait, la quasi-totalité des ministres actuellement sont en vacances, et de sombrer dans une sorte de forcing de com', parce qu'aujourd'hui, tout ne serait que de la com'. D'autre part, et bien sûr, les médias n'ont cessé de reprocher aux politiques de demeurer dans les palais gouvernementaux où ils se borneraient à concocter dans le secret de leur cabinet on ne sait quelles lois indigestes conçues par des énarques ignorants des réalités de terrain. Moi, je pense qu'il faudrait un peu plus de cohérence dans tout cela. Donc, où l'on va sur le terrain pour voir et savoir ce qui permet d'agir en toute connaissance de cause, où l'on se limite à de brèves informations officielles, aussitôt décriées bien sûr par tous les commentateurs, privées ainsi de leur pitance, la fameuse com, qui permet le buzz de la petite phrase saisie au vol. Je pense que maintenant il serait grand temps de choisir, notamment dans les médias et chez les commentateurs.
Votre commentaire nous sied. On tente de faire l'inverse ici, d'aller au-delà des 140 signes, au-delà du pitch. Il nous reste malheureusement très peu de mots, Virginie Le Guet, pour conclure et rebondir sur ce propos de
Yves. Déjà, je félicite notre auditeur pour cette interpellation extrêmement bien écrite. On sent que ça a été mûrement préparé.
Et bien dite aussi.
Et bien dite. Donc bravo, monsieur. Vous n'êtes pas très aimable à l'égard des commentateurs, mais vous êtes pardonné. La commentatrice que je suis...
Non, on peut commenter sans commenter.
Voilà,
du pitch
la,
et tenter d'aller au fond.
La commentatrice que je suis dirait simplement que le choix de Jean Castex correspond de toute évidence à une volonté du président d'aller sur le terrain. Je crois qu'il a déjà fait 20 déplacements et que Jean Castex ne cesse de répéter justement qu'il faut vérifier si la base reçoit ce que dit le sommet et surtout ce que dit la base, ce dont elle a besoin. Et on voit bien que c'est ce qui se passe depuis quelques semaines. Jean Castex se déplace, les ministres se déplacent, Emmanuel Macron lui-même se déplace, les besoins s'expriment et ils essayent d'y répondre.
Le problème, et des prises de décision qui sont également un petit peu décentralisées.
On est un peu tard dans le quinquennat, on est un peu tard dans le quinquennat et je ne sais pas ce que Emmanuel Macron a réellement dans sa besace d'ici 2 ans.
Merci à vous, mesdames, de vos commentaires. Mon cher Yves, vous pourrez le dire pertinent ce soir sur Europe 1 avec, alors je vais bien le prononcer cette fois-ci, Yannick Halimi,
c'est bien.
Chef adjoint du service politique du Parisien, et Virginie Le Guet, qui est directrice adjointe du service politique de Paris Match.
Europe 1. 18h48, votre grand journal du soir revient sur Europe 1 avec vous, François Claus, et les reporters d'Europe 1 pour la rétro d'actu.
Oui, pour revivre ces moments tellement étonnants qu'on a vécu pendant 2 mois. Non pas pour traiter un dossier, mais juste le témoignage et les émotions, ça méritait de les revivre. Et ce soir, nous allons parler de ce qu'a été à l'intérieur de l'hôpital la détresse des soignants. A tout de suite.
C'est dangereux quand même.
Aujourd'hui, il n'y a aucune indication pour la population française à acheter des masques.
Nous sommes en guerre.
Tous les patients qui sont transférés sont sous respirateur.
Il faut être efficace.
Europe 1. Rétro d'actu.
We will succeed.
Ça se propage trop vite.
Elle se dresse face au Covid-19 avec cette réplique. Vous n'entrerez pas.
Il montre la lueur au bout du tunnel.
Revivre nos émotions de ces 3 mois si singuliers que nous avons traversés. Revivre les émotions des reporters d'Europe 1. C'est ce que nous vous proposons tout l'été en 15 reportages. Ce soir, voyage au cœur de la détresse des soignants. Bonsoir, Jeanne Bergaoui.
Bonjour.
Nous sommes avec vous le 25 mars dernier, soit seulement 10 jours après le début du confinement.
Et ce jour-là, je téléphone à Ghislaine, elle est infirmière dans le Sud, 32 ans de pratique, et ce qui ressort vraiment de son témoignage, c'est ça.
Hier matin, premier patient, je mets ma blouse, c'est déchiré. Après, c'est l'angoisse qui monte, parce que vous dites, oh, une blouse de gaspillée, premier patient, oh là là, comment je vais faire quoi. Mais vous voyez, enfin, je veux dire, on est en plus face à du matériel de merde. On n'a jamais eu des virus aussi contagieux, c'est une première pour tout le monde. Et ça m'a fait réfléchir hier matin. Ben, j'étais face à cette espèce de truc invisible là, qui pouvait m'atteindre, qui pouvait atteindre ma famille, mes autres patients, et qui pouvait mettre en danger tout le monde. On est vraiment confronté à cet invisible qui est vraiment un invisible tueur si on ne prend pas des précautions.
Ghislaine a 32 ans de pratique, une grande expérience, et on sent dans ce témoignage la détresse, la peur.
C'est vraiment la chose qui ressort. Elle en parle longuement avec des mots très simples. Elle me parle de la peur d'être contaminée, de contaminer sa famille. C'est vraiment elle qui amorce cette dimension de détresse psychologique des soignants que beaucoup vont évoquer plus tard. Pendant
toute cette période du confinement. Et nous sommes, rappelons-le, Jeanne, le 25 mars, soit au tout début de l'épidémie. Et là, vous commencez à enquêter et vous vous rendez compte que la France, finalement, avec un décalage de près de 2 mois sur la Chine, est en train de vivre ce qui s'est passé à Wuhan et dans le Hubei, où des documents commencent à sortir de Chine à ce moment-là.
Effectivement, donc il y a des chercheurs qui commencent à documenter cette dimension psychologique des soignants. Et puis, il y a déjà des chiffres. Les premiers travaux font état, par exemple, de 50% de dépression des soignants chinois, 44% d'anxiété, 34% d'insomnie. Alors ça, c'est des chiffres. Mais on se rend compte que c'est des tendances qui commencent aussi à s'appliquer sur la France, sur les soignants français. J'appelle un moment l'association SPS, donc Soins aux professionnels en santé, pour essayer un petit peu de comprendre ce phénomène. Cette association, elle a mis en place une plateforme téléphonique. Et à ce moment-là, donc on est mi-avril, ça fait un mois que le confinement a commencé, On est à 30 appels de soignants par jour. En un mois, ils ont reçu 2500 appels. C'est autant qu'en 2 ans. Donc un mois, autant d'appels qu'en 2 ans. Et c'est des appels qui durent une vingtaine de minutes. Un tiers sont passés la nuit ou le dimanche. Donc vraiment au moment où ça ne va pas, où on se relâche, certains ont des pensées suicidaires. Et ce que m'explique cette association, c'est vraiment que l'épuisement est en train de s'aggraver. Il y a une vraie angoisse qui monte. Et le président de cette association, Éric Henry, craint, lui, des troubles encore plus importants à la sortie du confinement.
Quand le rideau se ferme, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est le grand vide, c'est la dépression que vont faire beaucoup de soignants d'avoir donné beaucoup pendant cette période. Et puis, une fois que le rideau se referme, ils vont repartir dans les coulisses, dans leur famille, chargés de toutes les images qu'ils ont vécues, qui ont vu énormément de morts par asphyxie. Alors la mort par asphyxie, c'est pas très, très joli à regarder, puisque les gens sont en sueur avec un regard hagard et vous demandent quelque chose que vous ne pouvez pas leur donner, c'est-à-dire de l'air. Et c'est très, très douloureux de voir ces yeux-là. Et ensuite, il y a tous les morts qui vont être obligés de mettre dans des housses et le nettoyage des chambres derrière. Et bien, on repart avec ces images-là chez nous. Donc, celles-là, elles ne sont pas jolies à vivre. Et il faut vraiment des professionnels pour désamorcer ça et dire à la personne, j'entends ta souffrance et je sais ce que tu as vécu et je comprends ce que tu as vécu et je vais t'aider.
Témoignage, on le voit très fort pour toute cette génération de soignants. Le mot soignant, d'ailleurs, qui est entré dans la terminologie française à ce moment-là, des aides-soignants aux médecins confrontés à cette situation terrible. D'autant plus fort ce témoignage qu'il faut bien dire que personne ne va témoigner sur place. Les journalistes ne peuvent pas rentrer, vous êtes au téléphone et vous découvrez cette réalité en poursuivant, Jeanne, votre enquête.
Exactement, donc c'est vraiment des échanges téléphoniques, c'est parfois difficile de faire parler ces soignants, il faut vraiment les mettre en confiance. Et puis ce qui ressort ensuite, c'est qu'on est donc toujours en pleine crise sanitaire et les professionnels disent que cette épidémie, elle va laisser des traces, on l'entend sans doute déjà, mais il y a vraiment des causes qui viennent alimenter cette anxiété et déjà des débuts de dépression. Tout le monde me dit, on est soignant, on a l'habitude de côtoyer la mort, mais pas aussi souvent, avec pas autant de décès.
Et un sentiment d'impuissance, souvent, comme l'expliquait Éric Henry.
Et puis, il y a ensuite cette grosse inquiétude qui monte chez les spécialistes, celle de développer plus tard un stress post-traumatique. Ça, c'est Nathalie Prieto, elle est psychiatre référente nationale des cellules d'urgence médico-psychologique qui m'en parle. Elle explique, le stress post-traumatique, c'est des symptômes très particuliers, des hallucinations, des cauchemars, une paranoïa. C'est un peu revivre en boucle des événements, comme les soldats qui rentrent, par exemple, d'opération.
C'est un phénomène très particulier qui fait que l'événement qui se revit en images, en sons, en impressions, ça peut être divers affects, est toujours revécu avec la même charge émotionnelle qui finit par être très toxique. Et puis aussi, ce qu'on connaît moins, c'est cette hypervigilance constante, le fait de ne jamais pouvoir se reposer parce qu'on est sans arrêt sur le qui-vive, l'impression que cette expérience-là reste très active et qu'elle ne s'éteint pas. C'est le propre du stress post-traumatique. Le fait d'être ainsi bloqué sur une prise en charge va réellement occasionner des troubles qui sont très invalidants pour le travail, mais aussi pour la vie quotidienne. C'est un trouble très isolant. Il finit par induire une sorte d'inconfort, compréhension, même avec ceux qui l'ont vécu et qui ne sont pas affectés du même trouble, bien évidemment.
Alors Jeanne, ce témoignage de Nathalie Prieto, on a le sentiment qu'on sort d'une expérience de guerre, de médecine d'urgence sur un terrain beaucoup plus compliqué, mais on voit que c'était tout aussi compliqué pendant cette période-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quelques 3 mois après, et avec cette situation de pandémie rampante encore là?
J'ai rappelé tout le monde, toutes les personnes avec qui j'avais pu échanger, tout le monde me dit la même chose, on est au bout du rouleau, on est très inquiet de cette deuxième vague, mais on a encore la tête dans le guidon. Alors du coup c'est très difficile d'exprimer encore ce mal-être, il y a ce tabou, on a du mal à échanger avec les collègues. Hier, il y a une infectiologue qui me disait, même si on va mal, on n'en parle pas aux collègues parce qu'il faut encore tenir puisqu'on est encore en plein dedans. Et c'est un peu le problème puisqu'on pensait qu'on allait sortir de cette crise sanitaire plus tôt et que le stress post-traumatique allait se développer dans la foulée, donc plutôt à la rentrée vers septembre-octobre. Sauf que là, comme on est toujours dedans, les assos, elles pensent que ça va se décaler, donc plutôt à la rentrée 2021. Alors, il faut quand même signaler qu'il y a des sas de décompression possibles. Les hôpitaux ont mis en place des cellules d'écoute, il y a des référents, il y a des plateformes téléphoniques gratuites, confidentielles. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est pour les libéraux, les personnels d'EHPAD, qui n'ont pas forcément de structure
adapté à cette situation, mais ce qu'il faut redouter, ce que vous le dites, c'est que ça vienne en décalé dans quelques semaines ou dans quelques mois. Merci beaucoup, Jeanne Bergawi, pour ce témoignage où l'on revenait sur ce qu'a été la détresse dans cette situation de quasi-guerre contre le virus à laquelle ont été confrontés l'ensemble des personnels soignants.
Restez avec nous à suivre sur Europe 1, le journal François.
Avec Noël Bougelot qui vient d'entrer en studio.